Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour Jean Viard, bienvenue chez nous et bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices.
Et oui, à toutes et à tous, c'est Mediapolis, toujours en direct, émission réalisée par Jean-Luc Arblat, préparée par Capucine Patouillet. Et notre invité, donc Jean Viard, sociologue graphomane qui écrit jour et nuit, qui a publié une nouvelle édition de L'implosion démocratique qui était déjà sortie l'année dernière, mais c'est une nouvelle édition. Et comme l'homme a de l'humour, il la dédie, si je ne me trompe, au hérisson. Oui, c'est ça, au hérisson, espèce en voie de disparition, vous voyez. Et puis un livre, lui, 4/5e nouveau, La page blanche, suivi de Chroniques de l'arrière, publié au mois de juillet aux éditions de l'Aube, donc, que vous avez créé avec votre compagne, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, il y a 35-40 ans.
Voilà, 40 ans.
Je fais 2 livres par semaine depuis 40 ans.
Voilà, wow. 2 livres par semaine, il exagère un peu.
Non, pas du tout, 110 par an.
Vous écrivez 2 livres
non,
par semaine.
Non, publie.
Ah,
vous parlez de la maison d'édition.
Ah oui, c'est pas vous qui les écrivez, d'accord.
Alors, parce que là, vous écrivez 2 livres par an.
Je suis
quoi.
Pas journaliste.
Vous écrivez 2 livres par an. Ah non, on a pas d'attaque personnelle ici.
C'est pas une attaque.
Alors, avant qu'en tout, je voudrais que nous évoquions l'attentat d'avant-hier, ou d'hier. Tout d'un coup, je mets... D'hier, en vérité, oui, comme le temps file. Et assez étonnamment, dans son ouvrage La page blanche, un peu dans le début, je crois, un peu avant la fin de l'introduction, Jean Viard fait une comparaison entre la pandémie et le terrorisme islamiste. Je lis. Comme en 2001, quand quelques jeunes, n'ayant appris qu'à faire décoller des avions, ont détruit les Twin Towers et bousculé les valeurs américaines et le monde. Après le temps des guerres mondiales des nations, puis celui des guérillas, le temps des bricolages assassins, semble bien advenu. C'est cela aussi le monde global où est notre avenir, monde dorénavant numérique, en risque de pandémie et de virus, y compris informatique, ce monde où le commun est dominé par la crise climatique définitivement. Donc c'est assez étonnant le rapprochement que vous faites.
Mais c'est-à-dire que paradoxalement, plus on fait terre commune, culture technique, on est très fort, on a une civilisation scientifique et technique extraordinaire, quoi. Et en même temps, quelque part, elle a des points de fragilité. Effectivement, quelques dizaines de mecs qui détournent des avions qui ne savaient même pas atterrir, qui sont capables de détruire, de faire un massacre épouvantable. Des terroristes, évidemment, comme les terroristes de Charlie, qui effectivement, non seulement font un acte odieux, mais en plus font une rupture, y compris dans notre culture. Je pense qu'on modifie, y compris notre rapport à la liberté, tout ça. Et au fond, ce petit virus en Chine, un pangolin qui a plus ou moins créé un chinois, ou une erreur scientifique, au fond, ça n'a pas d'importance. Ça déstabilise le monde. 5 milliards d'hommes se confirment. 1 milliard d'enfants sortent des écoles. Moi, ce qui me fascine, si vous voulez, c'est on est en train de faire terre commune pour se battre ensemble. Et je trouve qu'on ne commémore pas assez la victoire. Bien sûr qu'il y a 1 million de morts, mais au début, on disait qu'il y en aura 50 ou 100 millions. On a sauvé des dizaines de millions de personnes âgées et on va continuer. Il faut le dire beaucoup parce qu'il faut chanter la victoire pour être fier.
On va y revenir à la pandémie, mais une des choses frappantes, peut-être ce sera pareil quand cette pandémie sera finie, c'est que d'une certaine manière, on n'a pas encore complètement appris. Regardez, il y a une polémique qui est en train de naître, Catherine, sur le fait que ce lieu, où il y a la fresque en hommage aux journalistes et dessinateurs assassinés, que ce lieu n'était pas protégé par la police. Et même le ministre de l'Intérieur, je crois, a reconnu qu'il n'y avait pas eu la prise en compte de ce risque. Mais il se trouve, j'ai demandé hier à un des dirigeants, un des créateurs de la maison de production, s'ils avaient demandé la protection policière. Et ils ne l'avaient pas demandé. Et
eux, j'ai lu le contraire.
Ah, non. Écoutez, c'était en direct sur LCI.
Non, je crois, mais j'ai lu dans le journal qu'ils l'avaient demandé et qu'on leur avait pas répondu. Donc...
Ah, moi, hier, il a répondu qu'il ne l'avait pas demandé. Bon. Non, mais peu importe. Non. Mais ça veut quand même dire que. Je crois que c'est tout le contraire de s'être habitué. C'est qu'on n'a pas cru que ça pouvait recommencer là.
Mais oui, à partir du moment où Charlie Hebdo n'est plus dans ses locaux, on a pensé que voilà, ça ne pouvait pas être un lieu de mémoire pour des terroristes et pour un esprit, un garçon de 18 ans, un peu échauffé, pakistanais, qui a vu les manifestations au Pakistan et à qui ça a donné des idées et Qui pouvait prévoir ça? Je ne sais pas s'il faut accabler le ministre de l'Intérieur, mais voilà, c'est...
Plus l'incroyable déclaration le 3 septembre, deux jours après la publication de Charlie, du ministre des Affaires étrangères, diplomate si vous voulez, qui disait que la condamnation ne suffisait pas. C'est incroyable, c'était un appel implicite à la violence.
Non, mais on a des adversaires qui sont extrêmement forts, qui ont le sens de la symbolique. Et je veux dire, c'est pas qui réfléchit. Excusez-moi, aller attaquer ce lieu, c'est plus d'abord le nouveau lieu de Charlie est tellement bunkerisé qu'il n'est pas attaquable. Mais en plus, en termes de symbolique planétaire, c'est bien plus malin. Donc c'est quand même ça qu'il faut se dire. Nous sommes face à des gens malins, intelligents, qui ont le sens de la communication. Et au fond, nous, on réagit disant l'enquête n'a rien donné, on n'y va pas. Et la symbolique, elle était là.
Allez, vous parlez de gens malins, intelligents, qui ont le sens de la communication. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les domaines. Ça va être un peu moins dur, un peu moins tragique la suite, puisque c'est Canteloup.
Le gouvernement a annoncé hier deux nouvelles restrictions. À Marseille, les bars et les restaurants seront fermés à partir de samedi.
Attendez, oui, bonjour. Attendez, c'est Jean-Claude Godin. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, la rédaction.
Bonjour. Bonjour, Jean-Claude Godin. Bon, bah, puisque vous vous dévouez, dites-nous ce que vous pensez de cette fermeture des bars et des restaurants.
Oh, franchement, Madame Julie, j'ai envie de vous dire, je vais être trop trivial, j'ai envie de dire, je tiens de vie. Hein.
Oula.
Mais pourquoi es-tu aussi cruel? Il était temps que je quitte la politique. Jamais je n'aurais pu me résoudre à fermer moi-même des bars, fermer des restaurants de notre belle cité phocéenne. Non, mais comment vont faire, je vous le dis tout de go, tous ces restaurants du Vieux-Port qui vous font d'habitude amoureusement réchauffer une boîte de bouillabaisse Leader Price pour 43,50 €. Non, je le dis franchement, on veut assassiner notre gastronomie locale. Oh là là.
Bon, monsieur Godin, vous comprenez qu'il faut bien enrayer l'épidémie quand même.
Mais j'entends, rassurez-vous, l'épidémie va être enrayée. Ah. Il suffit de faire confiance à Saint-Didier, notre sauveur.
Saint-Didier ?
Saint-Didier Raoult, prince de la céleste chloroquine. Nous l'entendons tous, nous les Marseillais, mis à l'épreuve. Notre foi est mise à mal. Sauf que, bon, là, c'est vrai qu'il a intérêt à se bouger un peu, parce que comme on est les seuls de la métropole en France à se retrouver dans cette situation, on passe clairement pour des crétins. Donc active-toi, Saint-Didier, active-toi.
Oui, donc c'était Nicolas Canteloup jeudi matin sur Europe 1, comme d'habitude après le tollé provoqué par la décision du ministre de la Santé de fermer bars et restaurants. Il est redescendu à Marseille, ajuster un peu le tir. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un invité qui habite entre Aix et Marseille, si je suis bien informé. Et donc Jean Viard va nous proposer une explication, une analyse de ce nouvel épisode du classico au sein du Covid dans quelques instants.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Jean Viard, sociologue, auteur de L'implosion démocratique et de La page blanche aux éditions de l'Aube. Jean Viard, vous êtes un homme de la capitale puisque vous êtes chercheur associé au CEVIPOF Sciences Po. Vous êtes un homme du Sud qui se revendique comme homme du Sud. Vous vivez là-bas, vous avez votre maison d'édition là-bas. Vous avez même été un moment candidat aux élections là-bas.
J'ai été conseiller municipal de Marseille.
Et vous avez été conseiller municipal de Marseille.
Tout à fait.
Voilà, ça fait toutes les raisons de vous entendre sur cette grande querelle entre Marseille et les gouvernants parisiens.
Non, mais si vous voulez, quand on caricature Marseille comme ça, ça me fatigue un peu parce que Marseille, c'est une grande ville scientifique, c'est un immense port.
Mais quelle caricature j'ai fait là ?
Non, pas vous, ce que je veux dire. Du Choupagnol et du Baudin finissant. Excusez-moi, d'ailleurs, les Marseillais l'ont quand même viré sèchement aux dernières élections, lui et ses héritiers. Ils ont d'ailleurs élu des gens qui sont assez différents en termes d'ambiance urbaine. Bon. Parce qu'il ne faut pas tomber dans cette caricature. Je veux dire, moi, je pense que depuis le début de cette pandémie, entre Raoul, tout ça, on mélange la mise en scène et le discours scientifique. Là, il y a une mauvaise gouvernance. Parce qu'effectivement, on annonce qu'on va donner la main au local et qu'on va discuter. On nous annonce qu'on est des citoyens responsables. La semaine d'après, on nous donne une fessée. À un moment, pourquoi est-ce qu'il est descendu le lendemain, le ministre ? Il ne pouvait pas descendre, faire une réunion de travail. Parce qu'évidemment qu'il faut lutter contre la pandémie. Évidemment qu'elle augmente. Et juste une deuxième remarque. pourquoi est-ce qu'on va pas... Acceptons que les étudiants aient un mode de vie qui n'est pas celui des maisons de retraite. Oui, ils vont, entre eux, se passer le microbe. Ben, on décide...
Attendez, restons sur le premier point, si vous voulez bien. Catherine, il y a vraiment deux positions. Il y a la position... Ce sont des mesures très impopulaires, la fermeture des bars et des restaurants. Elles sont indispensables pour limiter la progression de la pandémie. Il est donc normal que le pouvoir politique central ait pris ces décisions. Et puis il y a les autres. On ne peut pas
oui,
au moment
oui,
où on
parce
explique...
Oui, parce que est-ce que des élus locaux accepteraient de le faire en bravant l'impopularité des restaurateurs, des bars et tout ça? Il y a peut-être un moment où l'État... Mais la manière dont ça a été fait, le manque de concertation en amont, c'est ça qui a choqué, parce que pour que Renaud Muselier, qui est quand même quelqu'un
manifeste
dans la rue, ça, je veux dire, c'est donc le gouvernement n'a pas su se faire entendre et que ça les a brusqués, parce que c'était en contradiction avec ce qu'énonçait le Premier ministre, qui est voilà.
Si je vous suis bien, Catherine, et je pense en plus être vraiment d'accord avec vous, il fallait une vraie concertation préalable, quitte à prendre une décision qui ne correspond pas à ce
qu'il voulait. En disant, moi, mon... Voilà, parce qu'en plus, Olivier Véran, il est sur cette ligne, et lui, il a déjà, pendant l'été, téléphoné à des élus locaux pour leur dire, attention, vous faites n'importe quoi à Marseille. Le 13 septembre, là, cette manifestation au moment de l'OM PSG, je veux dire, les gens étaient collés, s'embrassaient, se roulaient des pelles, enfin, c'était une exubérance et dangereuse. C'était des jeunes, c'était pas des gens âgés.
Attendez, mais... Jean Viard ne va pas vous suivre si vous dites qu'ils ont tort de se rouler des pelles.
Non, je dis pas ça, mais je dis qu'évidemment, on a gagné le match. Donc, si c'était le PSG qui avait gagné, ça serait les Parisiens qui seraient roulés des pelles. Donc, si vous voulez, évidemment, c'est vrai que les vainqueurs font plus la fête que les vaincus. Je suis désolé pour les Parisiens.
Et on peut aussi se rouler des pelles pour se consoler.
Je ne conteste pas que c'est l'État qui, effectivement, est garant de la sécurité sanitaire. Ça n'a rien à voir avec la méthode, avec la discussion. Excusez-moi, Zoom, ça n'a pas été inventé que pour les chercheurs. Donc, on peut faire un Zoom avant. Parce que qu'est-ce qu'ils disent?
Mais moi, je suis d'accord avec vous.
Prenez des exemples simples. Est-ce qu'il faut fermer les terrasses à midi où les gens qui travaillent viennent manger? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut fermer le soir, je comprends très bien. Et ça se discute des choses comme ça. Ouais. Là, du coup, ils ont décidé de faire par semaine et pas par quinzaine. Ça aussi, ça se discute. Si au bout d'une semaine, on n'a pas d'effet, on prolonge. Je ne suis pas contre du tout. Et puis, si vous voulez, je pense que la question des jeunes doit être réfléchie. En ce moment, les jeunes, on est en train de les prendre en face. Les jeunes filles, on leur dit « cache ton nombril », elles peuvent plus sourire, elles ont trouvé un autre sourire.
C'est la même question. Vous avez une position qui, si je ne me suis pas trompé, vous l'avez esquissée tout à l'heure, qui me surprend beaucoup. Alors très très vite, exposez-nous là. Vous trouvez que les jeunes ont raison de faire des fêtes et qu'il faut les laisser faire des fêtes?
Mais je pense qu'on ne peut pas empêcher la jeunesse d'être jeune. Et qu'effectivement, il faut qu'ils vivent. Ils sont étudiants, ils ont en plus des modes de vie qui sont pas ceux de notre génération, parce qu'effectivement, ils vivent en coloc, tout ça.
Mais ils chopent le virus, là.
Eh bien, ils chopent le virus. Et alors? Et puis, effectivement.
Et ils le passent après.
Eh bien, ils se le passent entre eux. La question, c'est qu'il ne faut pas qu'ils le passent à leurs parents et à leurs grands-parents. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est ce que dit Esther Duflo dans Le Monde d'aujourd'hui. Et elle dit, effectivement, qu'on arrête tout 10 jours avant Noël pour qu'on confine la société, pour qu'on ne passe pas le virus. Ça peut être pareil. On dit aux étudiants, on va mettre dans toutes les facs des centres de test, peut-être les nouveaux sur la salive. Tu vas aller voir tes parents ce week-end, on te teste. Je veux dire, essayons de comprendre la vie de la société, on ne peut pas empêcher le virus de circuler dans la chaîne. Ou alors, il faut tout arrêter. Par contre, on peut empêcher les jeunes de le filer aux vieux. C'est ça, le vrai sujet. Et je pense, si vous voulez, que là-dessus, il faut mettre des sociologues aussi pour conseiller le ministre et pas que des médecins. Et je vous rappelle quand même qu'à Marseille, c'est 3 médecins qui s'engueulent. Le maire qui est médecin, le président de région qui est médecin et le ministre qui est médecin. C'est un peu Molière, tout ça.
Et il a prononcé un autre mot tout à l'heure, Jean Viard. Nombril. Est-ce qu'on doit laisser montrer le nombril? Réponse dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Alors, Jean Viard est avec nous, le sociologue rattaché au CEVIPOF, homme du Sud, auteur de L'implosion démocratique et la page blanche aux éditions de l'Aube. Et lundi matin, Jean Viard, il n'a pas écouté RTL parce qu'il écoutait Europe 1 où il préparait sa chronique pour France Info. Mais, on va lui faire entendre ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, 10 contre 1 qu'il n'est pas d'accord.
L'école n'est pas un lieu comme les autres. Vous n'allez pas à l'école comme vous allez à la plage ou comme vous allez en boîte de nuit. Vous allez à l'école dans une tenue correcte. Je crois que là aussi, chacun peut comprendre ça. Ceci étant, je suis sensible à ce que me disent des lycéens ou des lycéennes sur le fait qu'ils ne veulent pas être stigmatisés pour leur façon d'être habillés. Mais chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine, c'est-à-dire qui permette une plus grande égalité entre tous.
C'est le nouveau débat sur le crop top. Crop top, c'est-à-dire le petit chemisier, le petit t-shirt, etc., qui s'arrête au-dessus du nombril et qui vient voir, qui vient montrer, qui laisse voir un morceau du ventre au-dessus et en dessous du nombril, jusqu'au pantalon, au short ou à la jupe. Catherine, vous êtes croque-top ou vous êtes interdiction du croque-top? Vous êtes chevènementiste ou viardienne? Parce que lui, ben, je parie qu'il est...
Moi, je trouve que... Vous savez, c'est les filles qui mettent un... Il faut quand même dire qu'elles savent très bien que ça les sexualise et elles vont à l'école. De quoi parlent-elles, les filles qui vont à l'école entre elles? Elles parlent des garçons. Une fille qui arrive avec son petit croque-top, là, elle sait que c'est une manière de séduire. Alors, on dit qu'il faut que les garçons s'adaptent. Mais eux aussi, les garçons... Dans leur genre, dans un ado, il est toujours 2 ans de retard par rapport à une fille, mais il a des pulsions hormonales et son âge. Donc il y a un jeu, et heureusement. Donc c'est un jeu comme ça où.
Il faut l'accepter.
Ben, il faut l'accepter. Moi, je pense que ce. Vous savez, d'abord, il faut faire la. On demande une tenue décente. Bon. Alors, il faut faire la différence entre la pudeur, qui n'est pas du tout une injonction, qui est une injonction intérieure, on l'est ou on ne l'est pas. Donc, il y a des filles qui ne mettront pas ça parce qu'elles sont pudiques naturellement. Mais d'autres, respecter les codes. Qui leur apprend les codes si on ne leur apprend pas, si on ne leur en donne pas la définition de la décence chez elles, dans leur famille? Il faut qu'il y ait un code dans les...
Mais dans ce code, vous concluez que vous autorisez le crop top ou pas?
Que les établissements disent, et qu'il y a des tas d'établissements qui interdisent.
Mais Catherine Ney, proviseur, vous choisissez quoi?
Eh bien, moi, je dis qu'il vaut mieux ne pas montrer son nombril, parce que, ni même avoir des jeans à trous, parce que, voilà, il faut des règles.
Mais moi, d'abord, je trouve qu'un ministre qui confond le nombril et la République, c'est inquiétant pour son intervention. Non, mais c'est pas à rigoler. Le mot République a un sens fort. On est en période de crise.
Vous n'avez pas empêché de rigoler.
Je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse ce genre de confusion. Ça veut dire que, dans la tête, on n'est pas clair. On n'est pas à l'église. Monsieur a sans doute été élevé dans une école catholique. Il confond le costume du curé et la République. La République n'est pas un uniforme. C'est un système de valeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces jeunes filles, en permanence... Moi, ma sœur a été virée parce qu'elle a mis un pantalon, mais c'était avant 68. Donc, en permanence, c'est des sujets. Le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'on doit arrêter de genrer les vêtements. Donc, il y a des règlements intérieurs dans les lycées, et ces règlements intérieurs ne doivent plus être genrés. C'est ça que demande la jeunesse. En gros, le short est autorisé ou pas. S'il est autorisé, il est pour tout le monde. S'il est interdit, il est pour tout le monde, etc. Et puis après, il y a un mouvement chez les jeunes filles, parce que c'est un mouvement organisé, etc. Sans doute suite à MeToo.
Vous voulez dire qu'il faut donner le crop top pour les garçons aussi?
Non, mais je veux dire, si on le donne, on le donne pour tout le monde.
Si
elles n'ont pas envie de le mettre, c'est pas que ça soit obligatoire. Je veux dire que bon, il y a un problème. Après, il y a une évolution tout le temps, parce qu'aujourd'hui, ces jeunes filles, au fond, elles font un geste quasi politique. Après MeToo, tout ça, elles disent « mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux ». Donc ça veut dire que ça se discute dans les lycées, mais ce n'est pas l'avis du proviseur qui m'intéresse.
Je vais vous poser une question qui va vous provoquer. Est-ce que vous trouvez... Mettez-vous dans la peau d'une jeune fille musulmane, croyante, pratiquante. Est-ce que vous trouvez normal qu'on lui interdise de se recouvrir juste les cheveux d'un foulard à l'école, mais qu'en revanche, on autorise une jeune fille de venir avec une partie de son ventre à nu?
Mais c'est pour ça que je dis que c'est une question de discussion dans le conseil de lycée et d'écriture du règlement intérieur sur qu'est-ce qu'on considère comme, disons, la façon...
Non, ça s'apprend. Aujourd'hui, le foulard, il est interdit pour tout le monde.
Oui, le foulard est interdit, donc c'est parce que ça veut dire que les règles de vie en corps, regardez dans notre société, les hommes ont longtemps mis tous des costumes, c'est une forme d'uniforme, finalement. C'est une façon... Vous alliez travailler ni en short, ni avec un buddy-buddy. Bon. Donc, je veux dire, il y a des codes dans le vêtement. Le vêtement est un langage. Et donc, effectivement, ce langage, il évolue. Et c'est normal que les jeunes contestent. En ce moment, excusez-moi, mais avec la pandémie, avec le masque, le fait que la drogue, c'est devenu de la merde, le fait qu'il y a un en sauvage... On a un disque, un air fond de l'air réactionnaire qui est en train de se répandre dans la société.
Que la drogue soit de la merde, c'est un fait, c'est pas devenu
c'est pas
de la merde.
C'est pas un fait, c'est un tiers des Français qui en consomment, pas tout à fait un tiers, ou qui en ont consommé.
Ah, vous parlez du hackic.
Oui, mais ça fait partie, je veux dire, on ne peut pas injurier les pratiques sociales des citoyens. On peut éventuellement lutter, on peut interdire, il faut revenir à la loi. Moi, je pense que c'est la loi qui nous protège les uns et les autres. Et moi, c'est pas mon nu, moi j'ai 6 petites filles, alors vous savez, bon... les questions de costume des petites filles, elles sont un peu plus petites. Les plus grandes ont 10 ans. Mais quand même, je sais bien tout ça. Je veux dire, donc, acceptons qu'il y a des règles, et puis après, il y a des gens qui les contestent. Si ce n'est pas autorisé, que les jeunes filles font quand même, c'est leur droit, et après, elles peuvent être sanctionnées.
Moi, ce que j'ai trouvé ridicule, c'est vrai que le ministre Blanquer parle de républicaine, et que la République, ça n'a pas de signe, sur le plan historique, ça n'a aucune signification. Mais aussitôt, les femmes du gouvernement lui sont tombées dessus, que ce soit Elisabeth Moreno... Marlène Schiappa, Agnès Pannier-Runacher. Donc, ça a donné encore...
Ça veut dire quelque chose, quand même, aussi,
ça veut dire aussi que ce gouvernement n'est pas tenu. Voilà, ah, parce qu'il fallait... Voilà.
Ça, on est tout
alors,
à fait d'accord.
Quel que soit, on s'arrête sur ce mot, quelle que soit voilà. la tenue à l'école, là où il n'y a pas de tenue, c'est au sein du gouvernement. Oui. Et pendant ce temps-là, on travaille à la préparation d'une loi sur le séparatisme. What is it ? Et qu'en pense Jean Viard dans 2 minutes ?
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Catherine Ney et Jean Viard, sociologue au CEVIPOF Sciences Po, auteur prolixe, éditeur. Et donc, séparatisme, on annonce une loi sur le séparatisme. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce, de quoi s'agit-il ? Xavier Bertrand, au grand rendez-vous d'Europe 1 dimanche dernier.
3 ans et demi de perdu. On nous annonce une loi sur les séparatismes, et d'ailleurs le président de la République a visiblement du mal à prononcer le mot islamisme, parce que c'est ça quand même le problème. Ça fait des années que tout le monde prend conscience. Et il n'y aurait pas la grande naïveté du président de la République sur ces questions, ça fait longtemps qu'il aurait dû y avoir un texte.
Alors Catherine, d'abord une question très simple et directe là, par rapport à ce qu'on vient d'entendre de Xavier Bertrand. Il faudrait appeler le projet de loi contre l'islamisme ou il vaut mieux l'appeler contre le séparatisme ?
Écoutez, il faut peut-être l'appeler la loi sur le séparatisme, mais il faut bien faire comprendre qu'il s'agit de lutter contre l'islamisme radical.
Jean Viard. Voilà.
Mais moi, j'avais trouvé au départ que séparatisme, ce n'était pas idiot pour ne pas parler de communautarisme, parce qu'en fait, on vit tous dans des communautés et que je comprends bien qu'on ne les reconnaisse pas. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'avec le Covid, avec tous les phénomènes de séparation des générations, des lieux, des horaires, le mot prend un autre sens. Et d'une certaine façon, je dirais, en période de Covid, séparatisme, c'est un mot maladroit.
Eh bien, il faudrait donc du coup en trouver un autre. Il y a un autre mot, plus exactement une autre expression qui a surgi dans le débat politique français et qui nous vient des États-Unis. Cancel culture, ça fait mystérieux comme ça, une culture de l'annulation. Alors si on veut avoir une première idée de ce que c'est, mais ça le dépasse beaucoup l'exemple, le déboulonnage des statues. Annuler ce qu'il y a de déplaisant dans notre passé, ne pas rendre hommage à des gens qui ne le méritent pas. Et puis au-delà, eh ben, c'est toute une conception qui peut aller jusqu'à mettre en cause la liberté d'expression par le fait qu'il faut respecter les règles strictes d'un politiquement correct supposé progressiste et souvent identitaire. Sur le sujet, sans qu'il évoque exactement le terme, Jean-Luc Mélenchon, lors de son discours d'inauguration de l'Institut La Boétie, l'Institut La Boétie, Montaigne, La Boétie, c'est assez drôle, la Montaigne placée au centre droit libéral, du coup, eux, gauche-gauche, ils font La Boétie. En oubliant presque, parce que c'était lui, parce que c'était moi, que c'est plutôt un rapprochement qu'une opposition. Ils font ça à cause du discours sur la servitude volontaire de la Boétie. Ça nous entraînerait plus loin. Écoutons le déboulonneur Mélenchon.
On a beaucoup déboulonné. Et quand on parle de redéboulonner, je trouve normal. Je ne dis pas qu'il faille y aller déboulonner, parce que ça, c'est illégal. Mais qu'on le demande, ça, c'est pas illégal. Et on peut et on doit, si ça provoque une discussion politique qui élève le niveau de conscience, quelle mal y a-t-il à parler ? Je pourrais suggérer quelque chose au Sénat. Comment se fait-il que dans l'hémicycle, on ait une énorme statue d'un prétendu Saint-Louis que, pour notre part, nous appelons Louis IX ? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Quels sont les mérites qui lui valent d'avoir à présider les séances du Sénat ? Il a inventé le premier un signe distinctif que les Juifs devaient porter en France. Il a inventé les premiers incendies de textes de la Torah. Et il a inventé le percement de la langue au fer rouge pour les hérétiques. C'est ça qu'on laisse au milieu de l'hémicycle, déboulonnons.
C'était donc Raymond Devos, et quand on parle de redéboulonner, il faut aller déboulonner. Non, pas du tout, c'était pas Devos, c'était Mélenchon, et c'était pas une blague. Jean Viard.
Alors, j'aime pas beaucoup, si vous voulez, ce qui se passe avec cette maçon américaine, ça vient de la culture américaine, c'est très ancien aux États-Unis en fait. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec le monde numérique, ça a aussi une puissance qui n'est plus du tout la même. Mais après, si vous voulez, j'aime pas parce que moi, je suis dans le village, je suis très proche de Camus. Je pense, si vous voulez, que chez mon adversaire, il y a toujours une partie de raison et que je n'ai pas 100% de raison. Même si c'est mon pire adversaire, il y a une partie de raison. Et moi, je pense que si on sort de ce système de valeurs, ce qui ne veut pas dire que tout est égal, non. C'est un adversaire, je suis un combattant souvent. Mais je sais que j'apprends des choses de ça. Moi, j'ai appris à Toulon, quand je m'occupais du théâtre de Toulon, que la ville était Front National, j'étais allé
à Château-Vallon.
Exprès, oui. À Château-Vallon. Parce que, mais en même temps, j'ai appris des gens extrême droite avec qui je discutais. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y en a 100% raison et d'autres qui ont 100% tort. Je ne crois pas à ce monde-là et ce monde me fait peur. Après, il y a des moments révolutionnaires. En ce moment, la place des femmes, MeToo, a permis je dirais, une révolution. Ce qui se passe aussi avec les anciens peuples, les descendants d'esclaves, c'est clair que là, il y a des moments révolutionnaires. Donc il faut casser des convictions. Souvent, on éclate, on casse à côté, on pend un malheureux qui n'y est pour rien. C'est dramatique. Mais ça, c'est la révolution. Moi, je reste un révolutionnaire tolérant.
Vous savez, dans le sens, il y a peut-être une citation que j'adore, que vous ne connaissez pas, d'un poète surréaliste et donc assez révolutionnaire qui s'appelait Jacques Rigaud, et qui dit « Et si j'affirme, j'interroge encore ».
Oui, oui, mais
c'est un beau résumé de votre position camusienne.
Je suis tout à fait d'accord. Et si j'aime bien aussi Manuel Torga qui dit « L'universel, c'est le local sans les murs », c'est-à-dire ce basculement.
Magnifique ! Et pendant ce temps-là, parce que là, Jean Viard nous évoque des choses très très positives qu'il a faites et tout, mais Jean Viard, pour ceux qui ne sauraient pas, je vais vous faire une confidence, il s'est quand même lié au mouvement politique En Marche, à La République En Marche. Et La République En Marche, comme fiasco de mouvement politique, c'est difficile de trouver mieux. Donc on va lui demander son explication, son analyse de ce truc qui a totalement raté, et Catherine Ney aussi, bien entendu. Mais avant, comme il se doit, une petite pause.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Alors pendant ces pauses obligées, on peut heureusement se parler un peu. J'ai cru deviner que Jean Viard, bien qu'il ne me l'ait pas dit, n'était pas Jean Viard sociologue, mais Jean Viard qui a fréquenté En Marche, n'était pas forcément désireux de s'éterniser sur le commentaire de la déconfiture de ce mouvement. J'ai cru deviner, je me trompe peut-être. Et Catherine Ney, elle, avait quand même encore quelque chose à nous dire sur ce phénomène de la cancel culture. Donc avant l'autocritique ou la critique de Jean Viard sur En Marche, Catherine Ney sur cancel culture.
Oui, en réalité, la cancel culture, pour moi, c'est la culture de l'effacement. On retire les œuvres, on déboulonne les statues, parce que la cancel culture, c'est l'expression de catégories de plus en plus morcelées, d'une manière de plus en plus étroite et exclusive, vous voyez, des minorités qui, sur les réseaux sociaux, interdisent tels propos, appellent au boycott de telles personnalités publiques. C'est une culture de la censure. Et c'est une culture centrifuge qui, au lieu de rassembler, comme le prône, soi-disant, Jean-Luc Mélenchon, qui le créolise pour lui, c'est un nouvel humanisme. Au contraire, c'est une culture qui fait que toute la mosaïque est éclatée et ne peut se rassembler. C'est très dangereux.
Oui, ça fait d'ailleurs écho à notre émission de la semaine dernière avec Caroline Fourest sur, qui mène le combat d'une gauche universaliste contre la gauche identitaire, identitariste, comme elle dit. Alors, cher Jean Viard, En Marche quand même, dans le genre pchit, on fait difficilement mieux. Oui, un parti politique devenu graseux, quasi inexistant, d'échec électoral en échec électoral, et en plus qui arrive à se diviser. C'est quoi votre déception et votre analyse ?
Non, mais il y a deux choses. Moi, j'ai toujours fait de la politique. J'ai commencé dans les années 60, contre les guerres du Vietnam. J'ai accompagné la gauche à Marseille. Et Dieu sait si...
Non, mais on n'a pas beaucoup de temps pour faire tout votre parcours. On est sur l'échec d'En Marche.
Oui, hein. Ben j'ai toujours...
Et vous étiez le président Macron, vous écoutez.
Mais tout à fait.
Et il vous écoute toujours ?
Bon, ben, un peu moins qu'avant, mais bon... si vous voulez, je suis un macronien parfois triste, mais en même temps, j'ai rien d'autre sur le marché pour le moment. Après, l'histoire d'En Marche, vous savez, tous les partis aujourd'hui sont déliquescents. En Marche est une absurdité dans le monde actuel. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que si le président est réélu, c'est sur lui-même. Ce n'est pas En Marche qui va le faire réélire ou pas. Et les gens derrière, au fond, c'est une armée de supplétifs derrière un candidat qui les tire. Et qui, en plus, quand on a coupé le lien entre le territoire et les élus, fait que ces gens-là n'existent pas comme politique de terrain. Voilà, donc on est face à un modèle politique usé et un président qui, effectivement... à sa stratégie. Après,
mais c'était impossible, pardonnez-moi, c'était pas impossible de concevoir. On a quand même besoin, très très bien, un président est élu sur lui-même, mais on a quand même besoin de force politique.
Je dirais même
de parti, quitte à ce qu'il soit totalement différent des vieux modèles.
Mais je pense honnêtement que...
Et En Marche était censé être la construction d'un nouveau type de parti, d'une autre manière... de faire vivre un mouvement politique.
La politique, c'est des liens de fidélité, c'est des liens de distribution de la fierté des plus grands notables vers les milieux populaires. Tout ça, ça se construit dans la durée. Reconstruire un parti politique en ce moment, où est-ce qu'il reste un parti politique en réalité ? Je veux dire, c'est pas En Marche. L'idée de vouloir construire un nouveau parti politique, c'était contradictoire même avec l'idée de nos sociétés. On est dans des phases. Qu'est-ce que c'est Emmanuel Macron ? Au fond, c'est un leader populiste démocratique. J'insiste sur démocratique, mais c'est quoi ? C'est un homme qui arrive avec 30 copains et qui, à un moment, dans un espace politique en déshérence, arrive finalement à rassembler et à gagner. Bon, et qui, du coup, forcément, dans sa tête, se dit « j'ai gagné ». C'est, vous ne m'avez pas fait gagner, j'ai gagné. Donc, des fois, ça lui gonfle un peu, je peux bien le penser.
Oui, mais pendant la campagne, il avait monté un truc, il y avait 400 000 adhérents. Oui, tout à fait. Ça faisait vivre la campagne.
400 000 gens qui avaient appuyé sur Internet.
Ben c'était pas écrit d'avance qu'on en ferait
rien. Non, mais rien n'était écrit d'avance. Mais si vous voulez, je pense honnêtement, en plus, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on est en ce moment d'être pris par un fond de l'air, j'allais dire réactionnaire. C'est pour ça que l'ensauvagement, je ne le supporte pas. Le fait que le nombril à la République, c'est la même chose, ça me concerne complètement. Le fait qu'on ne réfléchisse pas à la question de la jeunesse. La jeunesse n'a jamais été aussi éloignée de la politique publique qu'en 68. Pour moi, il y a le même écart. Et en plus, dans cette crise que nous vivons, les retraités sont les plus malades, mais c'est eux qui ont perdu le moins de revenus. Donc, on est dans un écart de société. C'est ça qui me préoccupe. Et si vous voulez, voilà. Et donc, l'enjeu là-dessus, voilà, vous me posez la question, je vous réponds clairement. C'est pour ça que je dis que je suis un macronien triste, mais en même temps, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'alliance de l'entreprise et de la solidarité. La gauche française ne sait pas ce que c'est que l'entreprise. Excusez-moi, quand on a un tel taux de prélèvement, vous avez d'un côté un monde public qui fonctionne d'une certaine manière, et de l'autre côté, un monde privé. Ce qui sort de la crise, c'est que la confiance dans les entreprises a augmenté, y compris les grandes entreprises internationales. Pour moi, c'est positif. Il y a deux manières de se protéger notre liberté. Le marché et la politique. Quand la politique écrase le marché, c'est la dictature. Quand le marché écrase la politique, c'est une autre forme de dictature.
Et pourquoi est-ce que, le mouvement En Marche n'a pas repris ses idées, ne les a pas appliquées, ne les a pas portées, et sur le terrain et sur le plan national? Pourquoi?
Mais je pose aussi la question, c'est-à-dire que moi, quand l'autre jour, on était au cercle des économistes à Aix, il y avait en gros les gens qui pensaient le programme de Macron au début. J'ai d'ailleurs envoyé un petit SMS à Stan Guérini. Je lui ai dit, tu vois, vous êtes à Amiens, mais nous, les intellos qui vous avons aidé à penser, on est tous à Aix. Donc, il y a quand même un problème. Parce que dans ce pays, le lien entre les intellos, les programmes, on écrit des programmes intelligents, mais après, on les grande dans le tiroir. Et on gouverne comme des bureaucrates technocratiques. Mais ce n'est pas la première fois. On pourrait dire la même chose entre le discours de François Hollande sur son grand discours sur la finance.
Ce n'est pas la première fois, mais c'était supposé s'arrêter, ça. On était supposé rompre avec ça. Bon,
La question pour moi, c'est que c'est effectivement, il risque d'être réélu, mais j'aimerais que le lien, ça reconstruit. Sinon, effectivement, on va dans une société totalement technocratique.
Eh bien, il y en a un autre qui risque d'être réélu et avec lequel on est sûr que le lien est rompu. Pas en France, dans un pays très important. Zéro suspense pour savoir qui c'est. On en parle dans deux minutes.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Alice Baudry, directrice de la communication et du marketing de l'Institut Montaigne, pas l'Institut La Boétie, hein, l'Institut Montaigne, suit pour nous les médias internationaux et on va reparler des États-Unis. Et d'ailleurs, je vous signale qu'à Mediapolis, plus nous approchons du 3 novembre, plus nous parlerons de l'élection américaine, tellement elle est importante et tellement elle est médiapolitique pour le meilleur et le plus souvent pour le pire. Alice Baudry se tourne vers le New York Times et un article de Thomas Hetzal qui liste 5 raisons pour lesquelles Biden et tous ses alliés devraient s'inquiéter cette semaine. Dans les sondages, certes, Joe Biden devance Donald Trump, mais attention, il n'y a aucune garantie. Premièrement, il y a des indications que la base de soutien de Trump, les Blancs sans diplôme universitaire, est beaucoup plus motivée pour aller voter cette année que les principaux groupes qui votent démocrates. Il rappelle surtout que les sondages ne reflètent pas cela parce qu'ils ne tiennent pas compte de cette tendance, en quelque sorte de l'abstentionnisme différentiel, si on veut le dire en termes de politologie. Deuxièmement, les Latinos, qui sont la clé du résultat dans plusieurs États incontournables, et en tout cas l'Arizona et la Floride, ont montré moins de soutien à Biden qu'ils n'en accordaient aux anciens candidats démocrates, Obama, Clinton. De nombreux électeurs hispaniques semblent réticents à toute campagne qui les définit au sens large comme des personnes de couleur. Troisièmement, on s'attend à ce que le vote par correspondance soit nettement plus élevé chez les démocrates que chez les républicains, ce qui expose leur bulletin de vote à un plus grand risque de rejet, un sort plus commun au vote par voie postale qu'au vote personnel. Quatrièmement, les réponses à la question « Seriez-vous plus disposé à voter pour un candidat républicain ou démocrate au Congrès ?» commence à se retourner. Au début de juillet, on favorisait les démocrates de plus de 10 points. Désormais, ça s'est réduit à 6 points. Et enfin, cinquièmement, nous n'avons pas encore connu l'étape des débats qui arrive dès la semaine prochaine. Ils vont tester de façon significative la capacité de Biden à résister à 3 batailles de 90 minutes contre un adversaire connu pour des attaques personnelles vraiment brutales. Et moi, je me souviens, j'ajoute, que dans la dernière présidentielle, où j'aime bien l'évoquer, parce que pour une fois, j'étais un des très rares à avoir dit que Trump allait l'emporter, au lendemain d'un débat entre Trump et Clinton, tous les commentateurs chez nous disaient « Ah, mais Clinton était loin de la meilleure, sérieuse, montrait son programme, Trump a été grossier, Trump n'a même pas parlé de son programme. » Et moi, j'ai pensé tout le contraire, que Clinton déroulait un programme, que ça emmerdait tout le monde, que lui, Trump, la cognait, et qu'il y avait déjà un tel rejet de Clinton qu'en enfonçant ce clou, il préparait sa propre victoire.
Donc, votre verdict, cher ami, pour la prochaine.
J'attends de voir les débats, Catherine.
Vous croyez que ce n'est pas déjà tout réglé, non?
Ah non, vous pensez que c'est réglé pour Clinton
Trump. Moi, je pense que Joe Biden est très mauvais. Voilà. Donc, je trouve étonnant qu'un grand parti démocrate n'ait pas pu trouver un homme plus jeune, plus...
Non, ça, je suis d'accord avec
vous là-dessus. Et franchement, je serais démocrate, je serais très embêté.
Oui,
mais parce qu'on voit bien que physiquement, il ne tient pas le choc, intellectuellement non plus.
Pour l'instant, je réviserai mon jugement après les débats, d'accord?
Oui,
mais
d'accord.
Pour l'instant, je dirais plutôt, si Biden s'en sortait des débats, je ne suis pas du tout sûr qu'il s'en sort.
Non.
Pour l'instant, je dirais plutôt Biden... Parce que je pense que nous sommes rentrés dans une période dans laquelle ce qui prédomine, c'est le vote contre. Que Trump n'a pas été élu par un vote pour Trump, il a été élu par un vote contre Clinton, contre Hillary Clinton, et ça je peux le démontrer en détail si on n'est pas d'accord.
Oui, oui.
Et qu'aujourd'hui, les contre-Trump sont plus forts que les contre-Biden. Biden, il a toutes les faiblesses que vous dites, Catherine. Il y en a une qu'il n'a pas. C'est pas un homme qu'on peut détester. Clinton, Hillary, c'était quelqu'un qu'on pouvait détester. Trump, c'est quelqu'un qui est partiellement, mais quand même de plus en plus aux États-Unis aussi, plus qu'avant détesté. Biden, il n'est pas détestable, c'est son seul vrai atout.
Mais c'est vrai qu'on est dans une période de dégagisme, et donc ça a été une des chances de Trump et de ses grands électeurs populistes. Après, quand on voit Orban, tout ça, il y en a qui s'enracinent. Oui. Moi, je ferai deux remarques. Je pense que Trump a un peu changé de stratégie. Je veux dire, après l'assassinat de George Floyd et les manifestations, il s'est mis à incarner la loi et l'ordre et à être le rassembleur. Ce qui était pour lui, était plutôt le type qui foutait le feu sous les fauteuils. Donc là, on sent bien qu'il a une stratégie de rassembleur qui paye, rappelons-nous, sur
son
pied de Gaulle.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a aussi que la pauvreté des milieux les plus populaires américains a reculé sous Trump. Donc aussi, il faut faire attention. Les indices de pauvreté, notamment dans les communautés hispaniques et noires. Donc, je veux dire, sa politique... Elle n'est pas que idéologique pour des tas de gens, c'est que l'emploi...
C'est clair.
Bien sûr, on va dire c'est la clair. Suite d'Obama et tout. N'empêche que ce qui compte pour les gens, c'est qu'il y a moins de chômage et qu'ils ont plus de pognon.
Donc, mais là-dessus, vous avez raison, ça sont les plus pour oui. Et dans l'autre colonne, il y a le raté du Covid qui compte quand même.
Il y a bien sûr le raté du Covid. Mais sa vulgarité, sa façon de parler, regardez, la majorité des femmes blanches...
La vulgarité, c'est un atout.
La majorité des femmes blanches ont voté pour lui, alors qu'il voulait les attraper de la manière dont il voulait les attraper. Donc,
oui,
je veux dire, faisons attention
poussie,
à ne pas croire que la morale n'est pas une politique.
Alors, pour la chanson, avant même l'attentat, notre ami réalisateur Jean-Luc Arblade, en accord avec Catherine Capucine et moi, avait choisi Louis Chédid, Liberté. En hommage, justement, à l'appel de Charlie Hebdo, repris par presque tous les médias, pour la liberté d'expression. Et puis, vu l'attaque à l'arme blanche qui a été perpétrée près des anciens locaux de Charlie Hebdo, devant eux hier, et les deux personnes très très gravement blessées, plus que jamais, il nous a semblé nécessaire de vous faire connaître ou redécouvrir cette chanson de Louis Chédid, chantée magnifiquement par Louis Chédid en 1990, « Liberté ».
Sur les murs, ce que l'on pense, graffiti, morsure, impertinence. Noircir du papier sans qu'on vous poursuive. On dirait exister et non pas survivre. Qu'on ait tort, qu'on ait raison, pouvoir le dire haut et fort, sans craindre la prison, ni risquer la mort. Liberté chérie. Oh, 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 oh. mais la blessure de l'impuissance. Je fais des graffitis sur les murs d'intolérance.
Chédid 1990. Merci à notre invité, le sociologue Jean Viard, le sociologue, l'écrivain, l'éditeur. Merci à Jean-Luc Arblat qui a réalisé cette émission, Capucine Patouillet qui l'a préparée, Catherine Ney qui l'a comme toujours délicieusement animée. Vous pouvez la faire écouter ou réécouter en podcast sur europe1.fr. Et maintenant, vous allez retrouver notre ami pour parler de manger.
Bonjour Mario. Laurent.
Salut Laurent Mariotte.
Bonjour Catherine et Olivier. On va vous emmener au marché ce samedi sur la Côte d'Azur et ensuite on va faire une belle recette au mortier avec Yves Candebord ici présent. On va rendre hommage aussi à Pierre Troisgros et puis nous recevrons Antoine de Maximy. Vous savez, l'homme qui vient dormir chez vous, eh bien viendra manger chez nous. A tout de suite.
A tout de suite Laurent.